Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel. Lionel de la Roulière vous présente la voix des notaires. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Gapet, notaire à Nogent. Bonjour Maître.
Bonjour monsieur.
Maître, j'ai un ami qui a une ferme et le fermier va bientôt prendre sa retraite. Je voudrais que vous puissiez nous exposer quels sont les problèmes ou les conditions pour un jeune fermier qui s'installe, à qui on va faire un bail.
Donc la question porte évidemment sur les baux ruraux.
Hein. Voilà.
Qu'est-ce que c'est qu'un bail rural ?
Voilà.
Quelles sont les obligations du propriétaire, c'est-à-dire du bailleur, et du preneur, c'est-à-dire le fermier ?
Voilà.
Donc, je dirais en préambule qu'il faut bien comprendre que le droit rural est un droit dérogatoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout la même chose que quand vous louez quelque chose pour l'habitation ou même pour un commerce. Ça n'a rien à voir.
C'est ça.
À partir du moment où vous êtes propriétaire de terre et à partir du moment où vous avez un exploitant dessus, vous êtes soumis à ce qu'on appelle le statut du fermage. C'est quoi le statut du fermage ? C'est-à-dire, en fait, c'est un statut pour l'exploitant qui fait que, bien sûr, il va exploiter les terres, mais surtout, il a un droit au renouvellement du bail. Le bail rural est un bail qui est extrêmement encadré. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Et si on mettait des choses contraires au code rural, elles seraient réputées non écrites. Donc, en fait, on est très encadré, d'une part, sur les conditions du bail, et on est même encadré, vous le savez, sur le montant du fermage.
Oui.
Vous avez des arrêtés. Bon, là, maintenant, il y a un indice fermage qui est annuel, mais les bases ne sont pas les mêmes en fonction des départements. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas louer sur telle qualité de terre, sur à tel endroit, etc., plus qu'un maximum et moins qu'un minimum.
Oui, par exemple, pour l'Eure-et-Loire, entre la Beauce et le Perche...
Oui, pour l'Eure-et-Loire, par exemple, il y a des zones, je crois qu'il y en a 5, si je me souviens bien.
Voilà.
Vous avez 5 zones, et ici, à Nogent, on est dans la 5e. Voilà.
Voilà.
Vous avez un maximum et un minimum. Mais je crois que ce que je vais surtout insister aujourd'hui, c'est sur le système lui-même du bail, si vous voulez. Donc, il faut bien comprendre que le bail, il est forcément fait pour une durée minimum de 9 ans,
Oui.
Hein? Et qu'est-ce qui se passe au bout des 9 ans ? Eh bien, l'exploitant, le fermier, a un droit au renouvellement.
Voilà, oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il a le droit de repartir pour 9 ans.
Voilà.
Et vous ne pouvez faire échec à ce droit au renouvellement que si vous faites un congé pour exploiter pour un de vos descendants.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez donné en bail à ferme, le bien devient quasiment indisponible.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. On fait pas un congé pour vendre. Ça n'existe pas en matière agricole. Oui. On fait pas un congé parce que le locataire ne vous plaît plus, etc. Donc, il a un droit au renouvellement. Il a même un droit à rester dans les lieux, quasiment jusqu'à la fin de sa carrière, sauf si vous lui faites un congé pour exploiter.
Oui, c'est ça, oui. Puis ses enfants ont droit également.
Alors, justement. Il faut bien comprendre aussi que le bail agricole est un bail personnel.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez à ferme à une personne que vous avez choisie et avec laquelle vous avez conclu le bail.
Voilà.
Ça veut dire, ça a plusieurs conséquences. D'abord, le fermier n'est pas commerçant, il n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce agricole.
Oui.
Le fonds de commerce agricole n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, quand vous êtes commerçant, vous êtes titulaire de votre bail et votre bail a une valeur marchande et vous pouvez céder votre bail sous toutes les conditions qui sont inscrites dans le bail. Là, c'est pas le cas. Le bail, il est personnel. Et il y a une exception, c'est la cession à un descendant.
D'accord.
Mais attention, c'est une exception, ce n'est pas un droit. Il y a d'ailleurs un arrêt je crois que c'est la Cour de cassation qui vient de sortir à ce sujet. Ça date de quand? Ça date du 26 octobre 2022. Donc vous voyez, c'est extrêmement récent.
D'accord.
La Cour de cassation a rappelé que la faculté de céder le bail dans le cercle familial, c'est-à-dire à ses descendants, est réservée aux preneurs de bonne foi. Tel n'est pas le cas de celui qui, antérieurement, c'est-à-dire dans le passé, soit par exemple qu'il aurait mis sa terre à la disposition d'une société agricole sans en avoir informé le bailleur, donc ça c'est une violation de la loi, soit parce que il paye mal, vous avez été obligé de le relancer je sais pas combien de fois par huissier parce qu'il n'a pas payé, eh bien dans ce cas-là, si vous voulez, eh bien il n'y a pas un droit à reprendre pour le descendant.
D'accord.
Alors après, s'il y a un conflit, c'est évidemment le tribunal paritaire des bourgeois qui va trancher.
D'accord.
Et l'arrêt là qui nous intéresse, je cite. Il a été refusé la cession de bail à un preneur à cause de retards réitérés dans le paiement des fermages.
D'accord, oui. C'est nouveau, ça, parce que...
Non, c'est pas nouveau.
Ah non, c'est pas
nouveau. Mais ça a été réaffirmé.
Ah oui, ça a été confirmé, d'accord.
Ce qui veut dire que pour casser un bail, pour faire partir un fermier pour défaut de paiement, c'est très difficile. Parce qu'il faut qu'il y ait deux défauts de paiement restés infructueux pendant 30 jours, je crois.
Oui, c'est ça.
Inutile de vous dire que... le fermier paiera à la fin, quoi.
Oui, c'est ça.
Et puis, vous en serez quitte pour avoir payé l'huissier, et puis on repart au point de départ. Oui, en revanche, le jour où il voudra céder à son fils, à partir du moment où vous aurez fait des sommations de payer, il pourra dire, ah, non, moi, j'accepte pas, j'ai eu trop de mal avec vous,
voilà.
Je vous accepte pas.
Ah,
et ça, c'est une décision qui a été prise, un arrêt de la Cour de cassation.
Très bien. Bon, nous allons avoir notre pause et nous reprenons juste après, maître. Maître, nous allons reprendre cet exposé sur le bail rural où vous avez parlé de différents baux. Peut-être il y a également le baux à long terme.
Oui, parce que là j'expliquais, on était sur la cession du bail, où j'expliquais que le bail est quelque chose de personnel. Mais c'est vrai que de plus en plus, vous avez raison, on régularise des baux à long terme. Qu'est-ce que c'est qu'un bail à long terme? C'est un bail qui a au moins 18 ans de durée.
Voilà.
Donc, quand vous n'êtes pas agriculteur, le fait que, et c'était le sens de mon exposé tout à l'heure, le fait que vous louiez à un exploitant, que vous fassiez un bail de 9 ans ou un bail de 18 ans, je dirais que ça ne change pas grand-chose, puisqu'il a son droit
renouvellement.
Oui. En revanche, quand vous lui régularisez, d'emblée un bail à long terme, eh bien, dans ce cas, vous avez une exonération fiscale très intéressante, puisqu'en cas de succession et de donation, il y a pour chacun de vos héritiers un abattement de 75% par tranche de 300 000 euros.
Oui, oui. Oui, c'est quand même intéressant.
Donc, ce qui veut dire que dans la quasi-totalité des cas, on divise par 4
le
montant pour le paiement des droits.
Voilà.
Donc il ne faut pas hésiter effectivement à faire des baux à long terme. Je parle du point de vue propriétaire.
Voilà.
Ça met quand même une stabilité plus importante. Enfin, ça donne une stabilité aussi au fermier.
Voilà.
Le fermier n'est jamais contre le fait de régulariser un bail à long terme.
Voilà. Oui, puis en fin de bail, je crois qu'il y a quand même un avantage. il y a pour le propriétaire.
Alors attendez, non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Le fait que vous signiez un bail à long terme de 18 ans, ça ne lui enlève pas en principe le droit de d'avoir son son droit à renouvellement.
Voilà.
Hein? C'est-à-dire qu'en réalité, une fois que les 18 ans sont passés, le bail va se prolonger par période de 9 ans.
Voilà.
Donc 3 fois 9, 27 déjà. Voilà. Ça fait quasiment une carrière. Et le fait que le bail se renouvelle par période de 9 ans ne lui enlève pas son caractère de bail rural à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on conserve les avantages fiscaux.
Voilà.
Ce qui veut dire qu'en réalité, une fois qu'on a fait un bail à long terme, il n'y a pas de problème avec le fermier. Si le fermier reste toujours en place, on n'a pas besoin de le refaire.
Voilà.
Ça, c'est clair. Voilà. Donc, je crois qu'il faut, à partir du moment où vous avez une certaine surface, il ne faut surtout pas hésiter à régulariser avec votre exploitant un bail à long terme. Alors, quelle est la différence entre un bail de 9 ans et un bail à long terme? C'est que juridiquement, un bail à long terme est considéré comme un acte de disposition, parce qu'il est aussi sur bail de 9 ans, mais qui doit être publié. C'est-à-dire qu'en fait, il doit être publié aux hypothèques, qu'on appelle maintenant le SPF, Service de la Publicité Foncière. Et pour publier un bail à long terme, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle une assise cadastrale correspondant à ce qui est loué.
D'accord.
Ah, parce que par exemple, dans un bail de 9 ans, vous pouvez dire que vous avez une parcelle qui fait 10 hectares, je t'en loue simplement 5.
Oui.
Et ça suffit, c'est bon.
Oui.
Hein, du moment qu'on se met d'accord sur les limites. En revanche, dans un bail à long terme qui doit être publié, il faut avoir le cadastre précis de ce qui est loué. Pourquoi ? Parce que ça part au service de la publicité foncière.
Oui.
Et donc, dans ce cas-là, quelquefois, et ça arrive régulièrement, on est obligé de faire des divisions pour vraiment individualiser la parcelle qui va faire l'objet du bail à long terme.
Voilà.
Alors, c'est vrai, quand j'ai dit bail à long terme, il a au moins 18 ans, mais on peut faire plus. On peut faire un bail de 25 ans, on peut faire un bail...
Oui, mais à 25 ans, il n'y a pas un problème de... où on a un long préavis.
Oui, alors justement, vous avez devancé ce que j'allais vous dire.
Voilà.
Et vous avez parfaitement raison, hein, parce que vous avez aussi le bail à long préavis, hein,
voilà.
C'est-à-dire en réalité, qui peut être de 18 ans aussi, le bail à long préavis, mais ça veut dire que, alors je crois que c'est, je parle de mémoire, hein, je crois que c'est 4 ans, hein, il y a un préavis de 4 ans doit être donné par le propriétaire.
Voilà.
Et dans ce cas-là, et puis aussi, il y a des assouplissements qui ont été portés. D'une part, il peut y avoir un bail de carrière, c'est-à-dire on vous loue pour votre carrière jusqu'à ce que vous ayez atteint l'âge légal de la retraite.
Voilà, c'est ça.
Et puis après, on verra. Hein.
Oui.
Vous n'avez pas forcément le droit au renouvellement. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont, en revanche, relativement nouvelles. Hein. Et puis, comme vous avez parfaitement raison, on peut faire un bail à long congé.
Oui, c'est ça, oui.
Le bail à long congé, donc, évidemment... on se demande toujours si on va en voir le bout, mais ça garde quand même la caractéristique d'un bail rural à long terme, avec les avantages fiscaux que ça procure.
Oui. Et ensuite, pour le propriétaire, il y a quand même l'avantage au bout des 25 ans de pouvoir récupérer entièrement son bien sans que le fermier...
Et son droit à renouvellement, ça peut... Oui, alors il faut que ça soit bien prévu dans le bail, effectivement.
C'est ce qu'on appelle le à long préavis, non ?
Le bail à long préavis, oui.
Oui, c'est ça.
Ah, mais
et bon. C'est au moins 25 ans, c'est ça ?
Oui, c'est au moins 25 ans. Bon, j'en ai fait un petit peu, j'en fais pas beaucoup. En général, on se cale sur les baux à long terme.
D'accord.
Ah, et puis, de toute façon, je dirais que quand vous louez à un agriculteur et que vous êtes déjà parti pour un bail à long terme de 18 ans plus le renouvellement de 9 ans, vous avez déjà 27 ans.
C'est... Oui, c'est ça.
Donc c'est un peu compliqué de prévoir ce qui va se passer plus tard.
Très bien. Merci, maître, de toutes ces précisions qui, je pense, en Eure-et-Loire intéressant.
On pourrait en parler pendant...
Oui, mais ça, j'imagine.
Tout ça. Hein.
Voilà. Bon, je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de Radio Grand Ciel et que Claude Casal était aux manettes.